Matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
Esprit libre, comme tous les jours sur Radio Classique, avec le philosophe Luc Ferry, comme chaque matin, comme chaque lundi matin, mais même le 1er janvier en tout cas, en direct. Bonjour Luc et bonne année.
Bonjour mon ami.
Emmanuel Macron a-t-il raison d'avoir donné hier soir à ses vœux une tonalité résolument optimiste et d'action plus encore sans doute que de coutume pour des vœux présidentiels?
Quand c'est que du verbe, c'est décevant. Moi j'attendais des choses intelligentes sur l'Europe éventuellement. Surtout pas une Europe à 30, par pitié, c'est déjà une catastrophe, cette Europe qui s'est élargie sans s'approfondir. Donc je n'attendais rien du tout, mais j'aurais aimé avoir un discours intelligent sur l'Europe. Je pense que l'intelligence artificielle va bouleverser le monde comme aucune révolution industrielle.
Alors il en a parlé, ça a dû vous faire plaisir, c'était le couplet Luc Ferry.
C'est une vacuité bouddhiste. Il n'y avait pas un mot d'intelligence sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va bouleverser le monde, notamment le monde du travail, le monde de l'emploi, aussi le monde scolaire. Elle va bouleverser la morale et la politique et le droit. Et donc, Google vient de supprimer 30 000 emplois remplacés par des robots d'intelligence artificielle. Pas un mot là-dessus, pas un mot sur ce que devrait faire l'Europe pour avoir une souveraineté en matière d'intelligence artificielle. Et puis j'aurais espéré, en tout cas souhaité, quelque chose sur un gouvernement d'union nationale. Voilà, Europe, intelligence artificielle, union nationale, dire agir, mais quand c'est uniquement du verbe, moi, je ne vais pas parler comme Marine Le Pen ou comme Ciotti en disant mensonge, tromperie, etc. Non, c'est le verbe à l'état chimiquement pur et avec rien dedans. Ça, c'est très décevant. Vous savez, il y a une phrase dans un livre que j'aime beaucoup, qui est un livre extrêmement intelligent et amusant de Wittgenstein, donc un philosophe contemporain viennois, justement, on en parlait, dans le Tractatus Philosophico Logico-Philosophicus, dans lequel il dit « Ce sur quoi on n'a rien à dire, il vaut mieux se taire ». Ben voilà, quand on n'a rien à dire, quand il n'y a aucune annonce, il faut se taire. C'est les mots creux, on n'en peut plus. Voilà, le verbiage creux, on n'en peut plus.
Mais donner comme ça des perspectives en parlant des JO de Paris, de la ouverture de Notre-Dame, la commémoration du débarquement.
Enfin, écoutez, les commémorations, on n'en peut plus des commémorations. On n'en peut plus. Quant à Notre-Dame et les JO, mais ça fait combien de temps qu'on nous en parle?
Oui, mais là, en tout cas, c'était dans sa besoin. Il était servi par l'agenda de cette année 2024 enfin, pour servi, dire aux Français, mais, il va y avoir des moments
JO,
où on va se rassembler.
Les JO vont être une véritable catastrophe. Voilà, donc moi, je vais quitter Paris, mais enfin, d'urgence pendant ces JO. Vous imaginez le nombre de flics qui vont être mobilisés, les questions de sécurité, les questions de circulation, le prix des chambres d'hôtels, le prix des chambres d'Airbnb, etc. Mais enfin, c'est une atrocité.
Vous ne croyez pas ce côté festif du sport, de la célébration, de la performance?
Au secours, homo festivus festivus, relisez ça, ce livre génial. Est-ce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de festivité? On a besoin d'action, on a besoin de réformes, on a besoin de choses utiles.
Même la réouverture de Notre-Dame, ça ne vous emballe pas?
Non, mais ça fait 5 ans qu'on en parle.
Oui, mais ça y est, c'est devant nous.
Et alors,
les délais sont tenus.
C'est pas une annonce, François.
L'annonce, c'est le fait que les délais soient tenus. Alors,
ça fait combien de fois qu'on nous dit que les délais seront tenus? J'ai entendu ça des milliers de fois. Donc, moi, ce que je dis, c'est que les vœux creux, pitié, il faut arrêter ça. Quand on prend la parole et qu'on est chef de l'État, il faut annoncer des choses qui sont des choses réelles, qui sont des choses concrètes, qui sont des choses intéressantes. Encore une fois, moi.
Vous ne croyez pas à ce réarmement, qui est un mot qui a été beaucoup utilisé par Emmanuel Macron hier soir, à la fois pas seulement pour parler d'ailleurs du budget de la défense, mais aussi l'éducation, l'hôpital, l'industrie.
Écoutez, ça fait. Est-ce qu'il y a un seul Français, un seul en France aujourd'hui, pour penser sérieusement que la France va mieux qu'il y a 7 ans? Je demande un seul Français qui nous dirait sérieusement, voilà, la France va mieux aujourd'hui que quand Emmanuel Macron est arrivé. Donc non, on a une dette de 3 000 milliards d'euros, on a un déficit public qui est cosmique. Enfin, lisez Bavresse, lisez Agnès Verdier-Molinier, regardez les gens sérieux qui vous disent quel est l'état de la France. Donc moi, ce que j'attends, c'est le redressement, voilà. Et je ne veux pas, encore une fois, employer des mots comme ceux de Marine Le Pen ou d'Éric Ciotti qui disent trompeur, mensonge, Macron se noie dans son mensonge. C'est pas ça, c'est ce verbiage creux qu'on ne supporte plus, on n'en peut plus. Voilà, il faut quand on prend la parole, annoncer des choses sérieuses. Voilà, je vous disais, intelligence artificielle, Europe, mais Europe a un vrai projet sur l'Europe, une Europe à 10, voilà, pas une Europe à 30.
Et justement, derrière Emmanuel Macron, il y avait ces drapeaux français, européens, bien sûr, et ceux des autres pays de l'Union européenne derrière lui. Les élections européennes arrivent. Il y a 5 ans, le parti du président est arrivé en tête. Cette fois, c'est le RN qui devrait être numéro 1. On a appris en milieu de semaine la disparition de Jacques Delors, un Européen pur jus s'il en est. Est-ce que vous direz que l'Europe a plutôt progressé ou pas du tout depuis les années Delors et le lancement des fondations de l'euro?
Là aussi, pardon, je suis désolé de dire ça, mais moi qui suis un pro-européen, contrairement à mon camarade Michel Onfray, par exemple, moi je suis très très pro-européen, mais j'ai toujours été contre l'élargissement à 30. Vous savez que le projet d'Emmanuel Macron, ça a été annoncé par sa secrétaire d'État à l'Europe, donc je connais même pas le nom d'ailleurs, et ça a été aussi annoncé par Mme von der Leyen, c'est l'idée d'aller vers une Europe à 30, en intégrant les pays des Balkans qui ne sont pas encore dans l'Union Européenne. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Il faut une Europe à 10. Donc on ne peut pas éliminer ceux qui sont déjà là. Il ne s'agit pas de les rejeter de l'Union Européenne telle qu'elle existe. Mais il faut une Europe à 10 avec les vieux pays de l'Union Européenne, avec une harmonisation fiscale et sociale raisonnable, avec une fourchette d'harmonisation, de telle sorte qu'on puisse avoir une Europe puissance. C'est ça qu'il nous faut. Une Europe puissance qui investisse notamment dans l'essentiel aujourd'hui, c'est-à-dire dans cette troisième révolution industrielle qui est celle de l'intelligence artificielle. Voilà, moi je suis désolé, si j'étais président de la République pour parler comme dans les hôpitaux psychiatriques, et fort heureusement je ne le suis pas, mais j'aurais annoncé voilà un grand projet de souveraineté française passant par la souveraineté européenne à 10, que ce soit sur le plan militaire, mais surtout sur le plan de l'intelligence artificielle.
Mais est-ce que ça se décrète d'en haut, ce plan pour l'intelligence artificielle que vous appelez de vos voeux? Est-ce qu'il s'agit juste qu'un État si centralisé qu'il est en plus en France aussi...
Non, l'Union Européenne. Les sommes à investir sont si colossales. Regardez ce que la Chine
investit. Vous voulez surtout de l'argent à disposition des start-up qui se créeraient?
Non, pas seulement.
Est-ce que l'État est le mieux placé pour finalement générer cette innovation?
Oui, pas l'État, mais les États, l'Union européenne, elle peut investir dans la recherche. Recherche et développement, c'est sa principale qualité, si elle en avait encore aujourd'hui, ce serait d'investir dans la recherche et le développement, et massivement, ce qu'avait dit Cédric Villani, d'ailleurs, dans son rapport sur l'intelligence artificielle, comme Poutine l'a dit, les pays qui maîtriseront l'intelligence artificielle domineront le monde. Voilà, pour l'instant, ce sont la Chine et les États-Unis qui dominent le monde. On a des start-up, il y a 150 start-up en Europe qui travaillent sur l'IA, mais c'est une question de souveraineté. Mmh. Il faudrait que nous ayons des GAFAMI, si je puis dire, plus OpenAI, européens. On a un problème de souveraineté, et un problème de souveraineté aussi militaire, absolument considérable, à régler.
C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron dit on a doublé quasiment le budget de la défense en quelques années, pour vous, ça reste encore très insuffisant?
Mais on a 3000 milliards d'euros de dettes. Il faut arrêter de plaisanter. On a 3000 milliards d'euros de dette et les taux d'intérêt augmentent. Et donc, les déficits publics augmentent. Donc, c'est pas vrai. C'est des mensonges. Alors là, pour le coup, c'est mensonge à l'état chimiquement pur. Tous les ministères, j'ai connu ça déjà, mais à l'époque où j'étais ministre, on avait, la dette de la France était à 65% du PIB. Elle est à 110%. Donc, les ministères ne peuvent absolument pas dépenser un centime aujourd'hui. Il fallait, bien sûr, soutenir les entreprises pendant la période de Covid, mais il fallait mettre en face des économies budgétaires, ce que évidemment Emmanuel Macron n'a pas fait. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où il n'y a pas un radis pour les ministères, il n'y a pas un centime à mettre dans la recherche ou dans l'université ou dans l'école aujourd'hui ou dans la justice ou dans la police. Et donc on est dans une situation qui est pire que jamais, évidemment. Et donc moi ce que j'attendais, voilà, c'est qu'on dise voilà, on va apurer les comptes publics, on va investir.
Mais ce qui est difficile, c'est quand vous souhaitez qu'on mette un investissement massif public dans l'intelligence artificielle, avec ce contexte-là de dette et de taux d'intérêt, il va falloir prendre l'argent quelque part. C'est toujours l'éternel problème.
Mais il n'y a rien de plus facile à faire. Il suffit de non renouveler le départ à la retraite de 500 000 fonctionnaires en France. Point final. Ce que j'ai fait, ce que nous avons fait avec Raffarin, on n'a pas fait autant, parce que je ne suis pas resté assez longtemps, et lui non plus d'ailleurs, mais c'est ce qu'on a fait, évidemment, dans les services publics. On a 5 600 000 fonctionnaires.
Comment fait-on à ce moment-là pour l'hôpital et l'école? Mais dont on ne cesse de dire qu'il faut évidemment des professeurs devant les élèves et des soignants devant les malades.
Mais moins vous avez de fonctionnaires, mieux vous pouvez payer les profs. C'était exactement ce qu'on a fait avec Raffarin en 2002-2004, donc en supprimant, en ne renouvelant pas un certain nombre de départs à la retraite. Et là, à mon avis, il faudrait carrément ne pas renouveler 500 000 départs à la retraite de fonctionnaires, et en réorganisant le service public et en payant bien davantage les professeurs qu'on ne le fait aujourd'hui, avec éventuellement un service plus élevé. Je ne vais pas revenir à ça. Mais là, on n'a rien fait de tout ça. On va dans le mur en klaxonnant. Encore une fois, lisez Bavresse, lisez Agnès Vernier-Molinier, ce sont des gens qui disent la vérité. Et donc, il faut absolument qu'on sorte de cet enlisement de la France, de ce déclin de la France, qui pour l'instant est un déclin absolument programmé. Il faut qu'on sorte de ça. Et si Macron veut sortir de ça, il faut qu'il fasse un gouvernement d'union nationale, parce que sinon, il a la majorité ni dans le peuple, ni à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc c'est ça que j'attendais, c'est qu'un chef de l'État prenne conscience qu'il a perdu les élections législatives. Voilà, il a toujours pas compris qu'il avait perdu les élections législatives. Donc ce que j'attendrais, c'est qu'ils disent voilà, on va faire un gouvernement d'union nationale, ce qui est le contraire du débauchage de droite et de gauche, mais il faut que les partis rentrent, les partis raisonnables, s'ils le veulent, que ce soit des partis raisonnables, dans un gouvernement d'union nationale pour retrouver une majorité à l'Assemblée et si possible une majorité dans le peuple, de telle sorte qu'on puisse agir, puisqu'il a prononcé combien de fois le mot « action »
11 fois, je crois.
Voilà. Donc, c'est, vous savez, plus on en parle.
C'est ça, bon, on le fait.
Voilà.
C'est qui en parle le plus.
C'est vraiment,
voilà.
Évidemment. C'est que ça n'existe pas. Voilà. Donc, si on veut retrouver de l'action, il faut un gouvernement d'union nationale et il faut s'attaquer au problème de la souveraineté européenne. C'est le problème numéro un, non seulement de l'Europe, mais de la France aujourd'hui.
Un mot d'une autre actualité traditionnelle du 1er janvier, c'est la promotion de la Légion d'honneur. On a pu voir, on peut le lire notamment dans le Figaro, où il y a tous les noms qui sont cités, les Nobel de physique Pierre Agostini, Anne Lhuillier, qui sont récompensés pour leurs travaux sur les lasers et les électrons, promu commandeur, Bernard Arnault, qui est président directeur général de LVMH, dont fait partie Radio Classique, qui est fait grand croix de la Légion d'honneur, la plus haute distinction de l'ordre. Ils ne sont que deux à être promus dans cette promotion à ce grade-là, tout comme l'hématologue et membre de l'Académie des sciences Dominique Meyer. Quel sens vous donnez à cette promotion de la Légion d'honneur? C'est important de continuer à promouvoir et mettre sur le devant de la scène ces Français qui portent haut les valeurs, le rayonnement de la France.
Bah écoutez, si ça fait pas de bien, ça peut pas faire de mal. Moi, je suis pas un fan des médailles. J'en ai aussi, mais franchement, je les ai jamais demandées ni jamais portées. J'aime bien la phrase. C'est mon ami André Comte-Sponville qui avait dit ça. La Légion d'honneur ne se demande pas, ne se refuse pas, ne se porte pas. Voilà. Je pense que c'est la formule adéquate. Mais je suis très heureux, en effet, qu'on honore des très grands chefs d'entreprise, des très grands scientifiques. Ça, je trouve ça formidable. Je trouve que c'est une bonne chose plutôt que des personnes qui n'ont fait rien d'autre dans leur existence que de vieillir. Voilà, j'en ai donné beaucoup de légions d'honneur, puisqu'on avait un contingent au ministère, bon, de gens dont je connaissais même pas les noms et dont le seul mérite était d'être resté en vie après leur retraite. Voilà, donc là, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux quand c'est en effet des personnalités qui assurent le rayonnement de la France. Voilà, il n'y a pas de raison de se refuser ce petit plaisir. Mais bon, personnellement, c'est pas ma tasse de thé. J'ai pas...
Luc Ferry, très cash comme tous les jours. Et dès le 1er janvier, il y va fort. Je lui ai souhaité bonne année quand il est rentré dans le studio. Il m'a dit toi-même. C'est une bonne façon de démarrer 2024. Merci beaucoup, Luc Ferry. Et puisque nous sommes le 1er janvier, il y a cette tradition du concert du Nouvel An. On en a parlé avec Augustin. Et même si vous n'écoutez pas ce concert, vous ne le regardez pas, vous êtes sûr qu'il y aura forcément ce morceau. La Radetzky marche, évidemment, de Johann Strauss père, ici interprété par le Philharmonique de Vienne, avec Gustavo Dudamel à sa tête. C'était lors d'un précédent concert du Nouvel An. Il est 8h58 dans quelques instants, les infos.